Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Par ici les sorties, votre émission consacrée à l'actualité culturelle dans notre département. On va parler de musique et on va écouter de la musique aujourd'hui en compagnie de notre ami, je le dis, notre ami François Cornu, pianiste d'origine chartraine et qui reste finalement assez fidèle à sa ville puisque vous venez de temps en temps jouer. Ça a été le cas, François, le vendredi 23 février au Musée des Beaux-Arts à Chartres, et puis le 16 mars dernier à l'église Saint-Aignan également. Vous aimez venir jouer dans le département et particulièrement à Chartres, parce que vous habitez Tours, hein, je le dis maintenant.
Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Eh bien oui, effectivement, j'ai toujours plaisir à venir au moins une fois par mois à Chartres. C'est la ville où j'aime me promener, et puis la présence de la cathédrale m'est nécessaire. C'est une sorte de phare dans cette Beauce. Je trouve que c'est très poétique aussi. Et bon, il y a des très beaux lieux, évidemment, à Chartres, du patrimoine, bien entendu. Le théâtre merveilleux où on a fêté le 20e anniversaire, le 20e festival Caritas Jeunes Talents au mois de décembre dernier. Le musée des Beaux-Arts de Chartres, où je joue depuis une trentaine d'années, et qui est un lieu, c'est peut-être le lieu que je préfère de tout ce que je connais, avec peut-être néanmoins l'abbatiale de Conques, où j'ai eu le plaisir de jouer aussi quelques étés. Et puis, effectivement, voilà, l'actualité reste assez importante, finalement, en Eure-et-Loire, avec le conseil départemental qui me soutient, les villes de Dreux, les villes de Chartres aussi.
Oui, vous avez une actualité qui est très importante, actualité de concertiste, mais il y a aussi un album en préparation. On va parler de tout ça. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur les concerts, d'ailleurs, du vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars dernier, puisque vous avez joué outre à l'église Saint-Aignan, à l'abbaye de Thiron-Gardé et en l'église de Houer, le Via Crucis de Franz Liszt, avec l'ensemble vocal Résonance. Parlez de cette œuvre, le Via Crucis.
Alors c'est une œuvre, évidemment, l'œuvre de Franz Liszt est importante au niveau de la présence religieuse, mystique. C'est quelqu'un qui est devenu abbé, qui l'a souhaité depuis son adolescence, et à la fin de sa vie, donc il rentre dans les ordres mineurs à Rome, où il vit, bien qu'il a été un Européen, un grand voyageur, et adulé, comme on le sait, hein, la star du piano et de la composition, hein, aussi bien à Budapest, à Moscou, à Londres, à Paris, à Weimar, Bayreuth, évidemment, avec Wagner, et puis beaucoup l'Italie aussi, qui lui était très chère. Et il compose, on peut dire à la fin de sa vie, il est mort en 1886. En 1878, il compose ce Via Crucis, d'après les 14 stations du chemin de croix. C'est une œuvre très épurée, qu'il va reprendre après la première version avec orgue, soliste et chœur. Il la reprend avec piano, cette fois-ci, à la place de l'orgue. Une écriture extrêmement moderne, très, vraiment un peu contemplative, déchirante tellement elle est nue. Voilà, c'est une grande expérience de jouer cette œuvre-là, parce qu'en fait, chaque note a son poids, chaque note a sa présence, et la voix des solistes, le baryton, c'était Jean-François Lefebvre, la voix de la mezzo qui fait partie du chœur Résonance, donc de Luisant, c'est dirigé par Sébastien Bouvet. Donc on a eu le plaisir de représenter cette très belle œuvre à l'église Saint-Aignan à Chartres, une des plus belles églises, il me semble, hein, vendredi 16. Le lendemain, on était à l'abbaye royale de Thiron-Gardé, excusez du peu. Et puis, le surlendemain, le dimanche 18 mars, à l'église Saint-Cyr-Sainte-Julie, à Houer, charmant village quasiment dans la vallée de l'Eure, du côté de Villemeux. Et j'aime beaucoup ce lieu avec un maire qui est très accueillant. Donc voilà, c'est une belle expérience, cette œuvre tardive de Liszt, et il y a beaucoup d'œuvres, même pour le piano, qui ont une tendance religieuse, puisque il y a les fameuses années de pèlerinage dont on va parler. Voilà.
Alors on va écouter un extrait du Via Crucis.
Oui.
Alors on est allé jusqu'à la, on l'a pas fait débuter au tout début parce qu'il y a très peu de notes au début, vraiment.
Oui.
C'est un morceau, comme vous le disiez, très, très méditatif.
Donc c'est le final, hein. Là on est vraiment dans la fin. Peut-être qu'on va pouvoir faire peut-être un raccourci grâce à la technique, c'est-à-dire prendre le début de ce dernier épisode, suivi du passage complètement de libération, Et c'est une, voilà, c'est une musique, encore une fois, qui nous porte, qui est très étonnante.
Je me dis que quand il y a si peu de notes à jouer, il faut vraiment être dans chaque note,
oui.
Entièrement dans chaque note.
Oui, oui, et... complètement investi, et on est... on n'est pas seulement un musicien, là, on est un peu transcendé, on est... Voilà, moi je pense beaucoup à Jean-Claude Penthier, que j'ai entendu jouer cette œuvre-là, qui lui-même est aussi dans la religion, donc il mêle la religion et la musique, et là j'ai l'impression d'agir dans un lieu sacré, pour rappeler ce fait.
On va écouter quelques notes. C'était un court extrait du Via Crucis de Liszt, une œuvre vraiment méditative, empreinte de spiritualité. On sent que Franz Liszt se rapproche du royaume et de la fin de sa vie, c'est ça.
Oui, en quelque sorte,
ouais.
Oui.
Ouais. Alors, on va parler de l'avenir maintenant et des prochains concerts qui se dérouleront tout au long du printemps, puisque votre actualité, François Cornu, est très riche. Vendredi 13 avril à 20h30, c'est à la chapelle de la Fondation d'Alire à Lèves, un concert marimba et piano.
Et oui, parce quelle curiosité. Voilà, j'ai rencontré la percussionniste Anne Rossignol, qui est professeure à l'école de musique de Lèves notamment, et dans d'autres lieux, et qui est concertiste. Et je l'ai entendu jouer au marimba, vous savez, ce xylophone avec les lames de bois. Je l'ai entendu jouer une œuvre pour violon seul, donc au marimba, et c'était magnifique, une partita ou je sais plus trop, mais de Jean-Sébastien Bach. Et donc j'ai eu l'idée d'associer nos deux claviers, donc piano et marimba. Cela donne vraiment des sonorités qui se répondent, qui sont un peu étranges, et on a trouvé du répertoire assez intéressant, hein, aussi bien du côté de Eric Satie. Donc un échange de mélodies pendant que je fais des accompagnements. Elle peut aussi prendre les accompagnements et donc les accords aussi.
Ça aurait sûrement plu à Satie, ça.
Oui.
Non, cet humour.
Oui. Ouais. L'originalité, disons, ouais. des timbres, parce que c'était vraiment quelqu'un d'un peu excentrique, hein, notre Eric Satie. Mais aussi l'œuvre de Bach, par exemple, les œuvres sonates pour piano et flûte, la flûte étant reprise par le marimba. C'est intéressant et ça sonne vraiment très très bien. Et puis on s'amuse à aller un petit peu plus loin dans du répertoire du XXe siècle, un peu jazzy, un peu rythmé, donc avec aussi bien Astor Piazzolla, les tangos, le grand tango qui est normalement joué au violoncelle, donc elle joue la performance quand même de le jouer au marimba, ce qui n'est pas simple. Une œuvre très très rythmée et pleine de lyrisme, donc Astor Piazzolla, musique argentine, et puis Claude Bolling, donc mi-chemin entre le classique et le jazz. C'est une musique très rythmée et voilà, on s'amuse à jouer ces musiques-là. Dave Brubeck, pour ceux qui connaissent Tech Five, par exemple.
Tech Five.
Ou bien ouais, tam badabada badabada bam blam bam.
Deux grands classiques, le Blue Rondo à la Turque et Tech Five, oui.
Voilà, donc et puis Gershwin aussi, un petit peu quelques chansons reprises au marimba avec accompagnement de piano. Ma foi, ça va être sympathique dans un lieu que j'aime beaucoup, qui a été le lieu de mes débuts quand je suis arrivé dans la région en 1990 ou 91. C'était à la chapelle de la Fondation d'Aligre, qui sonne très bien, qui est très accueillante, chauffée, mesdames, messieurs, confortable, et un joli jardin, un joli lieu quand on rentre avec les résidents qui sont là, qui adorent la musique et qui nous offrent leur sourire et leur enthousiasme, vraiment.
Alors quand vous m'avez dit que vous alliez jouer Bach avec marimba et piano, moi j'ai ouvert de grands yeux, béotien que je suis, et vous m'avez dit mais non, on peut jouer Bach sur n'importe quel instrument.
Oui, c'est vraiment la particularité une des particularités de Jean-Sébastien Bach, c'est de créer une musique pure qui n'a pas besoin finalement d'un timbre défini. On peut écouter bien sûr une fugue de Bach par des saxophones ou à l'accordéon, tout comme on l'entend à l'orgue, des flûtes, du quatuor à cordes, le piano qui remplace le clavecin. En fait, ça n'est pas gênant à partir du moment où il y a de la sincérité, du style. Eh bien, contrairement à Chopin, Brahms, qu'on ne pourrait pas jouer comme ça à l'accordéon ou au xylophone, voilà, Jean-Sébastien Bach, ça marche vraiment très bien.
Je rappelle que c'est donc le vendredi 13 avril, un vendredi 13, ça va vous porter bonheur,
oui.
François, à 20h30 à la chapelle de la Fondation d'Aligre,
oui.
À Lèves, un concert marimba et piano, il ne faut surtout pas manquer.
Et c'est organisé par la ville de Lèves, que je salue et que je remercie, avec laquelle je travaille depuis maintenant 27 ans. Puisque j'ai été professeur de piano là-bas, et vraiment, voilà, je suis très heureux. Il suffit pour réserver de, je pense, téléphoner à la mairie.
Alors, deux rendez-vous, le vendredi 25 mai à Motreau, près d'Hilliers-Combray, le lendemain, samedi 26 mai, à Ménil-Simon, vous allez jouer là vos petits chouchous, Schubert,
oui.
Chopin surtout, et Liszt. Hein.
Voilà, récital de piano dans le cadre d'une nouvelle opération Arts en scène, organisée, financée par le conseil départemental d'Eure-et-Loire, avec lequel j'ai souvent des beaux projets, et voilà, je suis content qu'ils me fassent confiance pour ces deux récitals de piano ouverts au grand public, donc avec de la présentation des œuvres, ce que j'aime beaucoup faire, et un programme avec des impromptus de Schubert, des valses de Chopin, des œuvres de Liszt aussi, voilà, donc du beau répertoire romantique sans barrière, sans mettre de sans, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Je voudrais vraiment que la musique soit la plus accessible possible, donc pas besoin de prérequis de connaissances pour venir à un concert de piano,
oui.
En tout cas les miens.
Est-ce que justement ces musiciens romantiques, Schubert, Chopin et Liszt, sont accessibles à tous?
Oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, parce qu'ils nous parlent au cœur, en
oui.
fait, ils sont très lyriques, très romantiques, et donc on est dans l'émotion. On n'est pas dans une certaine abstraction, un côté un petit peu intellectuel qu'on peut retrouver chez d'autres compositeurs plus tard. Et c'est pas toujours facile, hein, quand je dis intellectuel, par exemple, peut-être Bartok, et pourtant Bartok était très proche des traditions populaires et des danses et des chants des villages. Donc il a fait un remarquable travail. Debussy paraît parfois un petit peu un petit peu extérieur, mais il faut rentrer dans sa musique, il faut expliquer que c'est une contemplation de la nature. Et là, on commence à... Mais il faut beaucoup d'imagination. Donc en fait, un concert, quel qu'il soit, nécessite de la part du public une action. Il ne faut pas que le public soit voilà, passif, en fait. Hein. C'est vraiment l'œuvre existe et ravivée par l'artiste et par le public. Ouais. Et parfois, ça nécessite de donner quelques éléments de compréhension pour mieux apprécier l'œuvre.
Ouais. Les romantiques nous parlent de nous-mêmes, quoi.
Oui, bien sûr. Les romantiques sont portés sur leur moi, leurs émotions et parfois à l'extrême. Et bon, ça marche toujours. Le rêve d'amour de Liszt, les nocturnes de Chopin, les ballades de Chopin, c'est des œuvres d'un lyrisme et puis d'une virtuosité aussi. Il a le côté visuel qui plaît au public et tant mieux. C'est joli, je pense, de voir filer une main sur un clavier à toute allure dans un impromptu de Schubert.
Le dimanche 10 juin à 11h au château de Senonches, un récital de piano Évocation de l'eau. Là, c'est dans le cadre de la 8e édition de la semaine musicale.
Mais oui, c'est un professeur de... il va m'en vouloir, je me souviens plus son prénom.
C'est pas grave, on le redira.
Professeur de corps, ouais, qui était un remarquable musicien et qui, un peu comme moi, s'attelle à rendre accessible la musique classique par l'école de musique, par quelques événements comme cela. Donc il invite plusieurs artistes plusieurs jours de suite, si je ne me trompe pas, vendredi, samedi, dimanche de ce week-end, donc 8, 9, 10 juin. Allez voir du côté du château de Senonches, vraiment vous serez surpris, il y a un concert de piano quatre mains qui sera remarquable, et d'autres artistes. Et donc moi je joue à 11h du matin, un programme sur le thème de l'eau. Donc j'ai rassemblé aussi bien des musiques fluides, des pièces au titre évocateur comme Reflet dans l'eau, Jeu d'eau de Ravel,
magnifique.
Jardin sous la pluie de Claude Debussy, des préludes, des œuvres voilà, qui sont assez souples dans le, et égrenes, dont les notes sont égrenées.
Si on continuait d'écouter...
Avec plaisir. Alors justement, à propos de musique fluide, nous continuons à rester avec Franz Liszt, une œuvre de 1877. Dans les années de pèlerinage, donc c'est son trois cycles, celui-ci et celui de l'Italie. Et vous allez entendre Bertrand Chamaillou dans le début des Jeux d'eau à la Villa d'Est, une pièce à nouveau contemplative d'un jardin magnifique, la Villa d'Est à deux pas de Rome, que j'ai le plaisir de fréquenter. Un très beau jardin avec des terrasses qui descendent, et puis toute la végétation méditerranéenne, et des fontaines qui coulent et qui ruissellent. Nous sommes à la fois dans la beauté visuelle, et puis en même temps, on entend les oiseaux se mêler au bruissement du vent et de l'eau.
Voilà, les cinq sens sont convoqués. Ouvrons grand nos yeux, nos oreilles.
Thank you.
C'était un court extrait. Quel dommage hein, de couper
oui.
ces superbes jeux d'Odysse dont vous m'avez dit combien ce morceau était moderne.
Oui, c'est vrai. On peut considérer que Liszt ouvre la voie au langage musical du XXe siècle, celui de Debussy et Ravel notamment, qui sont issus du romantisme, hein, bien sûr, du XIXe. C'est vrai que cette fluidité est magnifique, nous porte. Il y a quelque chose de vraiment très réconfortant aussi dans cette musique. Donc j'aurai le plaisir de la jouer plusieurs fois, notamment les 25-26 mai, là, Motoro près d'Hillier, Ménil-Simon près d'Annette. Et puis aussi le 10 juin pour le programme sur l'évocation de l'eau à 11h au château de Senonches.
C'est une œuvre que vous jouez depuis l'âge de 17 ans.
Oui, exactement. Voilà, ouais. C'est une de mes œuvres d'adolescence qui m'a permis aussi de rentrer au conservatoire de, non pas le conservatoire de Paris, mais à l'École normale de musique de Paris. Alfred Cortot, sous la direction à l'époque de Pierre Petit, et le directeur et son adjoint Narcisse Bonnet m'avait dit « Je crois en vous ». Pourtant, je jouais pas vraiment avec une grande technique, pas celle qu'on vient d'entendre de Bertrand Chamaillou, qui est un merveilleux pianiste qui a enregistré les années de pèlerinage dans sa totalité de Liszt, mais c'est une œuvre que je garde toujours, enfin voilà, comme les jeux d'eau de Ravel, comme le rêve d'amour de Liszt, comme les valses de Chopin, c'est des pièces qui m'accompagnent.
Vous êtes toujours sur Radio Grand-Ciel, c'est l'émission Paris s'il est sorti, et j'ai le grand bonheur de recevoir aujourd'hui notre ami pianiste François Cornu, qui outre d'ailleurs qu'il est évidemment un concertiste et qu'il prépare un disque, on va en parler, on va terminer l'émission là-dessus, anime également une émission de radio chez nos amis d'RCF à Tours.
Mais oui, comme vous Christophe, j'ai chaque semaine un rendez-vous avec les auditeurs de RCF en Touraine, qu'on peut entendre sur le site internet, parce que ça n'est pas en podcast, hélas, donc sur le site RCF37, si je ne me trompe pas, le dimanche matin à 10h, et le lundi soir, donc à 20h, l'émission s'appelle Passion Classique, j'ai des invités, où j'aborde l'actualité de la musique classique en Touraine, notamment au Grand Théâtre de Tours, le Festival de la Grange de Mêlée, des beaux événements aussi. Ouais. Et donc je suis un peu au cœur de l'actualité et de l'activité culturelle en Touraine, et cela me permet de rencontrer beaucoup d'artistes aussi.
Ouais. Alors il y a d'autres projets évidemment qui sont en cours, il y a notamment un projet de concert, des récits mythologiques accompagnés des préludes de Debussy.
Oui. Alors ma compagne est conteuse, ouais. Fabienne Avisseau, et elle raconte depuis une dizaine d'années des histoires de terroir, mais aussi elle adore la mythologie. Donc on passe du Minotaure à Dédale, Icare, Pasiphae, Minos, voilà, c'est vraiment passionnant, et j'ai intégré des préludes de Debussy qui me semblaient être dans le même esprit un peu légendaire, un peu, voilà, un peu moderne aussi. Et en plus, vraiment, les pièces s'intitulent parfois « Danseuse de Delphes », donc c'est vraiment troublant, hein. « La terrasse des audiences du clair de lune », la cathédrale engloutie est très connue, oui. Mais la terrasse des audiences, c'est vraiment un moment qui permet de coller à un moment d'un sacrifice à l'intérieur du récit mythologique, vraiment qui colle très très bien. On termine avec l'île joyeuse, l'île de l'amour, de l'île de Cythère, avec Aphrodite. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Bon, c'est un programme que j'ai fait un petit peu tourner ces derniers temps, qui est tout nouveau et que j'espère présenter en Eure-et-Loire sans doute cet automne.
Vivement l'automne alors. Voilà. Et puis alors, surtout cet été, avant, il y a l'enregistrement d'un quatrième CD. Il nous reste vraiment deux petites minutes,
oui.
Mais je voudrais quand même qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre dans ce CD?
Eh bien,
CD, déjà...
mon dernier CD, c'était le troisième, c'était en 2006. On me réclame un quatrième CD depuis bien longtemps. Alors je me suis décidé pour cet été de l'enregistrer. Il paraîtra sans doute à la fin de l'année, ou peut-être octobre, je ne sais pas, avec des impromptus de Schubert, les jeux d'eau à la Villa d'Est qu'on vient d'entendre, et bien sûr, avec une œuvre aussi extrêmement spectaculaire, le Saint-François de Paul marchant sur les flots, avec un ouragan, des flots de vagues et de tourments sur le Saint-François qui traverse le détroit de Messine en Sicile. C'est assez fascinant comme œuvre très romantique et narrative de Liszt, mais aussi valses et nocturnes de Chopin. Les nocturnes dont j'ai l'ambition de jouer bientôt en concert l'intégrale, c'est-à-dire les 20-21 nocturnes.
Ça va être un sacré travail, non, pour j'imagine. j'imagine.
C'est un travail au long cours, disons. Ça fait longtemps que je joue une bonne dizaine. Il m'en manquait quelques-uns. Et là, je suis en train de les terminer, entre guillemets. Et après, il faut les maturer. Il faut vraiment, c'est comme un artisan, hein, on polie le bois, l'œuvre. Et j'espère présenter cela, une partie en tout cas de la deuxième partie, sans doute la deuxième partie des Nocturnes, le 22 ou le 23 juin au Musée des Beaux-Arts de Chartres. C'est un scoop parce que c'est pas encore tout à fait bien défini.
C'est pas encore calé. Voilà. Bon, on va en tout cas prendre un petit plaisir apéritif, si j'ose dire, en écoutant, pour nous quitter, un Chopin que vous avez joué. Vous pouvez nous présenter ?
Eh bien, c'est le Nocturne numéro 8 en Ré bémol majeur, des plus somptueux, une des très belles pièces avec la Barcarolle, avec quelques autres œuvres que j'adore.
Merci beaucoup François.
Merci Christophe.
On peut également retrouver votre actualité sur elixir.eaufort.com.
Oui.
À bientôt.
À bientôt.